Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cher Corps. Cher Corps, c'est une série de vidéos que j'ai créée et réalisée depuis 3 ans maintenant, disponible sur YouTube, où les femmes parlent de leur rapport au corps. Les vidéos durent une quinzaine de minutes et j'ai décidé de garder nos échanges plus longs en podcast dans cette deuxième saison. Dans cet épisode, j'ai rencontré Diane, qui a 26 ans et qui a eu un cancer du sein il y a quelques mois. On parle de la découverte du diagnostic suite à son premier rendez-vous chez une gynéco, de l'annonce aux proches, de son envie de se battre tout de suite, de toutes les étapes de sa maladie et du rôle que ça a joué sur sa féminité. Un immense merci à Diane pour cette rencontre et ce témoignage très précieux. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et en parler autour de vous. Merci beaucoup et bonne écoute.
Mon rapport au corps aujourd'hui, je me sens un peu plus... Je me sens moins responsable parce que comme on me l'a modifié via des opérations, de la maladie, des cicatrices... De la fatigue, pas le corps uniquement physiquement, mais le corps aussi, comment je me sens au niveau fatigue, au niveau de ce que j'aime dans la vie. Tout a été modifié. Et en fait, je trouve ça un peu cool parce que du coup, ça me dédouane de pas mal de choses. C'est un peu comme si je repartais à zéro, mon rapport au corps était un peu brouillon. Et maintenant, bon, bah, je sais, on m'a donné une nouvelle base et je fais avec ça. Okay. Et en fait, ça m'aide vachement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez cool. Qui était un peu brouillon, perdu, okay. Bah là, c'était un nouveau...
Ça te remet à zéro.
Ouais, okay. Ça a été une remise à zéro, ouais. Et ben, du coup, on m'a trouvé un cancer du sein, c'était en juin dernier. Ouais. Okay. Fin mai 2019, je suis allée chez la gynéco, ouais. Parce que je me suis dit, ah, j'ai 25 ans, il faut que j'y aille quand même. Ouais. Et puis j'avais des problèmes, j'avais des grosses douleurs de règles. Okay. Du coup, j'avais envie de régler un peu ce problème-là. Je me suis dit, peut-être l'endométriose, tu vois, un truc comme ça. Ben, finalement, elle m'a trouvé un cancer du sein, donc c'était un autre problème. À la palpation.
D'accord.
En fait, elle a touché, elle a senti une grosse boule, mais que j'aurais pu sentir moi-même, elle était vraiment énorme en fait.
Okay.
Mais moi, ça m'avait pas trop traversé l'esprit à 25 ans, j'y avais pas trop pensé. Et du coup, elle m'a envoyé faire une.
C'est la trompette.
Elle m'a envoyé faire une écho et une mammo. Okay. Et du coup, le radiologue a dit on va quand même faire une biopsie, on sait jamais.
D'accord.
Et du coup, on a fait la biopsie, et puis j'ai eu les résultats. Et du coup, là, c'est le rouleau compresseur médical. Qui a commencé à partir de là où tu as des rendez-vous toutes les semaines pendant hyper longtemps.
Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'une biopsie ?
Biopsie, en fait, c'est une espèce de pistolet qui prend une carotte de chair. C'est un peu comme pour faire les analyses dans le permafrost au Groenland. En fait, ça fait clac-clac comme un gros pistolet et ça te prend un peu de chair pour l'analyser après, l'envoyer à ce qu'on appelle l'anapath.
D'accord.
Qui l'analyse et qui, du coup, après, envoie les résultats pour dire si c'est bénin ou si c'est malin.
Okay. Donc, arrive la biopsie. Comment ça se passe ? Est-ce que tu es avec des médecins qui sont bien avec toi, qui sont à l'écoute ? Comment, toi, tu le vis à ce moment-là ?
Moi, la biopsie, le mot me faisait peur. Enfin, c'est là que j'ai commencé à sentir qu'il y avait peut-être un truc pas cool.
D'accord.
Moi, dès le début, je m'étais pas du tout... Enfin, ça m'avait même pas traversé la question que ça puisse être un cancer... Pour moi, c'était un fibrome, en fait, ce qu'on m'avait dit que c'était sûrement. J'ai juste une boule. Ma mère en a eu plein.
D'accord.
Du coup, pour moi, c'était un fibrome. Je ne m'étais même pas posé la question. Ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit. Et là où il y a eu le mot biopsie prononcé, j'ai commencé à me dire, ah, là, il y a peut-être un truc, mais bon, voilà. Et heureusement, le radiologue qui l'a fait était hyper cool, vraiment bienveillant. Je lui ai broyé la main, mais il a été très cool. Mais sinon, c'est un examen qui est un peu dur. T'es sous anesthésie locale.
Okay.
Mais le bruit est très impressionnant. Ça fait vraiment un gros bruit de pistolet.
Ah ouais.
Et ça fait mal quand même, malgré l'anesthésie. Donc, c'était pas un moment très, très cool. Et après, bah, tu passes deux semaines dans l'attente d'un résultat qui est pas tôt, qui peut être mauvais, quoi.
D'accord. Donc deux semaines à attendre. Tu reçois les résultats chez toi ou tu as le médecin qui t'appelle?
C'est ma... Alors, du coup, j'ai attendu deux semaines et c'est ma gynécologue, du coup, qui m'a appelée. Okay. J'étais au travail, je vous en appelle. Ça, après, on m'a dit que ça se faisait pas trop, normalement.
De t'appeler comme ça?
Ouais, de le dire par téléphone. Normalement, on te convoque et on se voit en vrai pour en discuter.
D'accord.
Du coup, bah, oui, c'est vrai que j'étais dans le couloir au travail entre les chiottes et le bureau de la DGE. Ouais. Allô? Oui? Ah? Ok. Donc, heureusement, je travaille avec une copine à moi sur un festival.
Okay.
Donc, je suis pu aller la voir direct, lui dire « Bon, je pense que je vais rentrer chez moi, il y a un petit problème. » Du coup, je prends le tram pour rentrer chez moi, je me fais contrôler par les contrôleurs. Je prends une amende. Non, parce que, évidemment, je n'avais pas eu le temps de m'acheter un ticket. Et puis, j'étais un peu embrumée d'en prendre un truc pas très cool. Du coup, là, j'ai commencé à bien pleurer. Les contrôleurs, ils n'ont pas dû trop comprendre. « Mais c'est qu'une amende, madame. » Et là, bah, du coup, c'est tant que t'as pas de rendez-vous, qu'on te donne pas de rendez-vous, t'es juste chez toi en mode, bah, qu'est-ce que je fais du coup maintenant? J'hésitais à le dire à mes parents ou pas, enfin, je savais pas trop, parce que je savais qu'ils étaient en vacances. Et du coup, j'avais pas envie de leur pourrir les vacances, mais après, je me suis dit, non, mais tu peux pas attendre deux semaines avant de leur dire un truc comme ça, c'est horrible. Du coup, ils ont arrêté leurs vacances. Ils sont venus, ouais. Ils avaient acheté une bouteille de champagne pour le soir même, qu'on a bu il y a pas très longtemps, du coup, finalement. Okay.
Bien.
Ouais.
Et du coup, ouais, donc t'as pas, en fait, elle t'appelle, mais tu l'as pas vue directement, quoi.
Non.
T'as attendu d'avoir un rendez-vous.
Du coup, elle m'a appelée. Et alors, comment ça s'est passé déjà? Ça commence à être flou parce qu'il y a eu tellement de trucs entre temps. Elle m'a appelée, elle me l'a dit, et en fait, oui, c'est ça. Elle m'a programmé un rendez-vous avec mon chirurgien.
D'accord.
Directement, celui qui m'a opéré par la suite.
Okay.
Du coup, je l'ai vu, tout est allé très vite. Je l'ai vu la semaine d'après, tu vois, un truc comme ça. C'est là aussi que tu sens que c'est un peu grave, c'est que tout va très vite. D'habitude, les rendez-vous médicaux, tu sais que tu attends énormément. Et là, d'un coup, semaine sur semaine sur semaine, tu as plein de rendez-vous, voire même le lendemain des fois, et tout, tu es là. OK, donc si ça va très vite, c'est que c'est un peu grave. Mmh. Et du coup, j'ai eu rendez-vous avec ce mec-là. J'ai eu énormément de chance. C'est le meilleur chirurgien du monde. Enfin, je souhaite à personne d'avoir à le voir, parce que généralement, si tu vas voir un chirurgien gynéco, c'est que tu as un problème, mais... Si un jour, il faut aller voir celui-là, si un jour ça arrive.
Okay,
du coup, c'est lui qui m'a tout expliqué, en fait, finalement. C'était le premier rendez-vous que j'avais physiquement avec un médecin.
D'accord.
Et donc, c'est lui qui m'a expliqué que j'allais avoir une chimio, que j'allais avoir la radiothérapie après, comment allait se passer l'opération. Enfin, il m'a vraiment tout expliqué le processus de ce qui allait se passer.
Okay.
Et il m'a donné un rendez-vous avec l'oncologue, qui est le médecin qui suit vraiment le cancer en lui-même, qui est un peu le coordinateur général de tous les soins. Quoi.
Lui, c'était le chirurgien.
Voilà. Donc normalement, c'est plutôt l'oncologue qui fait ce truc-là. Mais là, il se trouve que le premier rendez-vous que j'ai eu, c'était avec le chirurgien, mais ça a été, je pense, un hasard médical.
D'accord.
Et c'est bien tombé parce qu'il était vraiment super chouette. Et donc, les oncologues que j'ai vus après... était un peu moins chouette. Là, maintenant, j'en ai un qui est cool.
D'accord.
Mais en fait, j'ai été trimballée, j'en ai eu plusieurs.
Ah ouais.
Du coup, c'était un peu chiant parce que tu n'as pas trop le temps de tisser des liens, entre guillemets. Là, ce chirurgien, finalement, je l'ai vu autant de fois que les oncologues.
D'accord.
Peut-être même moins, non, sûrement moins. Mais il se rappelait de ce que je faisais dans la vie. Donnait beaucoup aussi. Il prenait beaucoup de temps pour parler aussi psychologiquement de comment j'allais et tout.
Okay.
Donc, c'est plutôt cool que ça soit fait comme ça.
Comment tu l'as annoncé à ton entourage, à tes proches, à tes parents, et comment toi, tu as compris à quel moment tu t'es dit « putain, merde, j'ai annoncé ça ».
Moi, je l'ai annoncé en mode blague, enfin pas en mode blague, mais j'ai beaucoup utilisé l'humour. Je me rappelle que j'ai fait une story sur Instagram à la con, j'étais bourrée parce que je m'étais bourrée la gueule avec mon père parce que... On m'avait dit « bois beaucoup avant le début de la chimio, parce qu'après, tu pourras plus boire.
Oui. »
Donc là, tu as un mois, profites-en à fond. Du coup, je me suis bourré la gueule tout le temps. C'était un super mois. Et du coup, j'avais fait une story bourrée où j'avais dit « j'ai un cancer ». Et du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont appris comme ça. Donc rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être un peu... C'était peut-être pas la meilleure des manières de le faire. Mais bon, sur le moment, c'était cool. Et sinon, après, je l'ai annoncé de manière très naturelle à mes colocs. Je suis rentrée, j'ai dit « putain, les gars, j'ai un cancer ». Après, j'ai appelé, j'ai envoyé des textos, et puis c'était beaucoup genre de textos à la con, genre « tu connais pas la dernière, j'ai un cancer du sein ». Cancer du sein est plus rassurant que cancer tout court.
Ouais.
Parce que cancer tout court, c'est cancer, c'est hyper vaste, en fait. Il y en a plein de types et ça peut être très grave, comme ça peut être vachement plus tranquille. Ouais. Un cancer du sein comme celui que j'ai eu, rétrospectivement, c'était chiant, hein, je ne le revivrai pas, mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Ouais. C'était pas la pire des choses que j'aurais pu avoir. Et moi, du coup, la gravité du truc, je ne l'ai pas trop réalisé jusqu'à il y a limite peu de temps, en fait. Enfin, t'es tellement dans un rouleau compresseur médical où les rendez-vous, ils s'enchaînent, et t'as pas du tout un moment pour te poser et réfléchir à la situation et dire, ouais. Bon, ok, alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, en fait, où, quand j'étais sur la radiothérapie, où t'es vraiment sur la fin, donc du coup, tu commences à voir l'après, faut recommencer à travailler, tu peux recommencer à sortir aussi, à rencontrer des gens. Et là, j'ai un peu pris conscience du truc où ça a vraiment changé beaucoup de choses sur... mon rapport à moi-même et mon rapport aux autres, t'as plus envie de te faire chier avec plein de trucs. Ouais. T'es un peu en mode, on s'emmerde pour plein de trucs, mais ouais. C'est chiant. Enfin, ouais, je sais pas trop comment le définir.
Avant le diagnostic, du coup, t'avais aucune, douleur physique, non. Tu ressentais rien?
Non, j'avais zéro symptôme.
Pas de fatigue?
Non. Il y a zéro symptôme, c'est ça aussi qui est bizarre, quoi. C'est qu'on t'annonce que t'as une maladie très grave qu'il faut prendre en charge tout de suite, mais t'as zéro symptôme, il n'y a rien qui... T'es là, mais non, mais moi, je vais très bien, je comprends pas. Ouais. Et en fait, tu commences à être malade à cause des traitements, en plus.
Oui.
Du coup, c'est les traitements qui te mettent mal, mais du coup... Ouais, c'est un peu bizarre, tu te dis, bon, je me mets mal pour me soigner d'un truc dont je n'ai pas vu, dont je n'ai pas du tout senti le mal, quoi.
D'accord.
Du coup, c'est, psychologiquement, c'est un peu bizarre comme maladie à appréhender.
Mais du coup, ce rendez-vous chez la gynéco, c'était une excellente idée.
Mais en plus, j'y étais jamais allée chez la gynéco, et c'est parce que j'avais pas trop envie, ça me faisait peur. Je veux pas montrer devant quelqu'un que je connais pas. J'avais entendu plein d'histoires où elles étaient pas très cool. Et ma tante m'a dit, il y en a une, c'est une sage-femme. Ouais. Elle est super à côté de chez moi, là, prends rendez-vous, tu vas voir. Elle fume des clopes, elle est pas du tout jugeante sur la vie que tu peux mener. Et du coup, j'ai dit, quand même, j'ai 25 ans, il faut que je me bouge le cul, je vais aller la voir. Et ben j'ai bien fait. Ouais. Merci, tata. Parce que j'aurais attendu, j'étais stade 3, je crois.
Okay.
Donc c'est genre j'aurais attendu un peu plus, c'était chaud, tu vois.
Et ça veut dire que du coup, c'était... tu l'avais, cette grosseur-là, depuis longtemps?
Ils savent pas trop le dire.
Ah, oui.
Les médecins, quand ils font les analyses, ils peuvent pas dire depuis combien de temps elle est là.
D'accord.
Du coup, ils essayaient de me demander, mais est-ce que vous la sentez depuis longtemps et tout? Parce que ça peut changer beaucoup de choses sur les traitements. Parce qu'elle était vraiment très, très grosse. J'en avais deux, une petite et une très grosse.
D'accord.
Et du coup, si... Là, elle était petite il n'y a pas longtemps et que là, elle est très grosse, ça veut dire qu'il évolue très vite. Et dans ce cas-là, il est très agressif et il faut le prendre en charge très vite. Et autant, il peut être là depuis très longtemps, depuis 10 ans, et être gros comme ça, et grossir depuis 10 ans, tranquillement, à son rythme, tu vois. Et du coup, ça, il n'y a pas trop moyen de savoir. Moi, j'ai essayé de me rappeler, mais c'est vrai que je ne me touche pas, en fait. Enfin, du coup, j'étais là, peut-être sous la douche, à un moment, j'ai senti, mais je n'ai pas trop fait gaffe. J'étais là, maintenant je saurais, en fait, il faut se toucher, c'est important. Mais ouais, du coup, je ne l'avais pas trop su. Après, dans tous les cas, il était agressif, donc ils m'ont dit, on ne traîne pas. Puis de toute façon, quand tu es jeune, ils te font pas traîner. Hein, oui. Tu es pris en charge direct, tu tapes tous les traitements.
Donc
tu
as commencé par la chimio?
J'ai commencé par la chimio, parce que le but de la chimio, du coup, c'est de faire réduire au maximum la tumeur.
D'accord.
Pour après, à l'opération, avoir pas grand-chose à enlever.
Ah, ok, d'accord.
Parce que sinon, il faut faire une mastectomie directement.
Ok.
Et après, soit une reconstruction ou pas, selon si tu en as envie. Et après, la radiothérapie.
Et comment ça s'est passé, cette chimio?
La chimio, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je m'attendais vraiment à pire. J'avais une appréhension de ouf. Le mot chimio, ça m'avait mis au fond du seau quand il me l'avait dit. Quand le chirurgien m'a dit chimio, là, de suite, c'est le moment où j'ai aussi commencé à avoir un peu peur parce que tu as des images... C'est les images d'enfants chauves avec un vieux clown sordide pour essayer d'égayer leur vie. Tu vois, t'es là, oh non, j'ai la flemme. Puis j'en ai eu pas mal autour de moi, des chimios. Donc je me rappelle des histoires de vomissements, de t'es fatigué, tu dors pendant 3 jours, de diarrhée. J'étais là, j'ai la flemme, j'ai pas trop envie. Perdre les cheveux, ça me faisait pas peur par contre.
Ah oui.
Au contraire, c'était le truc, j'étais assez contente. J'étais là, c'est rigolo. Enfin, j'aurais jamais eu, moi, le réflexe de me raser la tête. Du coup, c'est l'occasion de tester un truc. Enfin, je l'avais pris ça un peu comme un jeu, tu vois.
D'accord.
Genre, je vais jouer... Si tu jouais avec ton apparence aussi, tu vois, c'est...
Et c'est toi qui as préféré, du coup, te raser
les
cheveux?
Ouais. Bah, en fait, au moment où j'étais chez une copine, je me brosse les cheveux et je vois que j'avais une grosse touffe. Ouais. Je dis non, mais on va raser parce que j'avais pas envie de les voir tomber et d'être en mode Gollum à la fin. Où il te reste trois poils sur le caillou. Comme ça, tu maîtrises aussi un peu le truc, tu vois. C'est toi qui rases. C'est mes colocs qui m'avaient rasé. C'était un moment très cool.
Et ça t'a pas fait un petit choc quand tu t'es vue?
Si. Oui. Je fais la maline un peu. En plus, avant, on avait monté plein de plans. On était là, ouais, on va faire une performance artistique en te rasant la tête. On va garder les cheveux, on va faire des coussins, ça va être trop drôle. Ouais. Bon, finalement, en fait, ça s'est fait en 10 minutes parce que j'avais un autre rendez-vous. J'étais tremblante. J'ai dit, bon, allez-y, doucement. Ils m'ont fait le coup de, oh non, la tondeuse, elle marche plus, alors que j'avais juste la tonsure qui était rasée. Okay. C'était rigolo. Mais après, quand je me suis vue dans le miroir, j'ai un peu fait, oh ouais. Ah, et en fait, très vite, j'étais là, non, mais en fait, ça va. Et je me trouvais hyper stylée et chauve.
Ah,
ouais, je trouvais que c'était hyper cool et puis ça te donne une allure quand même.
Ouais, grave.
Ouais.
Et t'avais les cheveux jusqu'où?
J'avais les cheveux longs. J'allais jamais chez le coiffeur.
Ouais.
Donc j'avais
long.
Quand même. Ouais, très long. Très long et bouclé.
Ok. Ouais.
Du coup, c'était un gros changement. Mais je me les étais coupés au carré avant de les raser.
D'accord.
Genre deux semaines avant, un truc comme ça. Okay. J'avais histoire de graduer le... Ouais.
Okay.
De graduer le truc, je sais pas comment on dit.
Graduer, ouais, ça me semble bien.
Ça a l'air bien.
Et puis on l'invente.
Oui, voilà.
Et du coup, combien de temps ça a duré, cette chimio?
Ça a duré 4 mois et demi.
Ah, d'accord.
Donc j'y étais de fin mai, début juin. Ou de fin juin, je sais plus. Ouais, bon, mai-juin jusqu'au 2 octobre.
4 mois et demi, ouais. Et ça veut dire que tu es toujours à l'hôpital? Comment
non.
ça se passe?
Alors, ça dépend des chimios, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai eu un protocole où d'abord, c'était une fois toutes les 3 semaines.
D'accord.
Sur un gros produit, on te le met vraiment avec une seringue, c'est une seringue d'un produit rouge. Ils appellent ça la grenadine, c'est mignon. Ouais. Et du coup, c'est l'infirmière qui te l'injecte dans le cathéter que tu as dans le bras.
Oui.
Et c'est vraiment un produit hyper corrosif. Genre, si ça va sur ta peau, ça te désintègre le truc, enfin, ça fait trop peur, quoi. T'es là. Okay. Oh. Et ça, c'est un produit bien vénère qui te fout bien la gerbe. Enfin, j'étais pas très bien sur le moment, mais en fait, finalement, dès le lendemain.
Tu restais à l'hôpital, du coup?
Juste l'après-midi.
Ah, juste l'après-midi?
Ah, ouais, c'est en ambulatoire, ouais. D'accord. C'est en ambulatoire, je passais l'après-midi à l'hôpital. Okay. Donc là, j'en ai eu 3 des comme ça, toutes les 3 semaines.
D'accord.
Donc j'ai eu 3 semaines avec ce produit-là. Et après, je suis passée au Taxol, c'est un autre produit, où là, c'est une fois par semaine, et c'est plus court.
D'accord, et c'est moins violent que le début?
Ça dépend. Ben, moi, j'ai eu un peu peur quand ils ont dit Taxol, parce que j'ai une tante qui est décédée d'une allergie à ce produit-là.
Ah, merde.
Du coup, il n'y a pas très longtemps, en plus, ils m'ont dit Taxol, j'étais là, non, pas un autre, Doliprane, non, pas possible, non, bon, d'accord. Et l'homéopathie, bon d'accord. Et en fait, le Taxol, ça fait peur parce que la toute première injection, tu fais une espèce de réaction allergique. Ça le fait pas à tout le monde, ça le fait pas à chaque fois, mais moi, ça l'a fait.
Et ça fait quoi?
Et j'ai eu l'impression que j'étais en train de mourir.
Non, mais okay.
Enfin, c'est vraiment juste, t'es pas vraiment allergique parce que ça le fait qu'une fois. Et c'est vraiment quand le produit arrive dans ton corps, j'ai eu l'impression que mes poumons, d'un coup, ils faisaient la taille d'une noix. Et grosse bouffée de chaleur, j'étais rouge, il y avait ma tante qui était avec moi, elle m'a dit, mais t'es... Enfin, elle aussi, elle a eu très peur, parce que d'un coup, comme ça, et ça dure pas si longtemps que ça, finalement, et après, ça passe nickel. Mais du coup, ça fait un peu peur, t'es là, c'est un peu traumatique, genre, non, mais je le veux pas, ce produit-là, c'est tout pourri, quoi. Franchement, tout ça pour être soignée d'un truc qui me faisait rien, en plus, moi, j'allais très bien avant que vous trouviez ça. Tout se passait bien, j'étais pas fatiguée. Et ouais, ça, du coup, je l'ai eu pendant... tout le reste de la chimio, je l'ai commencé en juillet, je crois. En août. Et jusqu'au 2 octobre, une fois par semaine.
Et après la chimio, qu'est-ce qui se passe, du coup?
Et après la chimio, du coup, tu as l'opération qui vient un mois après la fin de la chimio.
Okay.
L'opération, du coup, ça dépend de comment la chimio elle a marché.
Ouais.
Si la tumeur a assez réduite, du coup, pour pouvoir enlever juste la tumeur, ce qui s'appelle une tumorectomie, une zonectomie. Je sais pas, j'ai entendu plein de mots, je les confonds un peu. Et si elle n'a pas assez réduit, c'est une mastectomie. Du coup, là, on enlève le sein en entier.
Ouais.
Et du coup, moi, le chirurgien trop cool, lui, il m'a dit que selon lui, après la chimio, il y avait moyen de faire ce qu'on appelle la zonectomie.
Okay.
Mais il n'était pas sûr. parce qu'elle avait réduit beaucoup, mais elle était quand même encore très grosse.
Okay.
Du coup, il m'a dit qu'il n'était pas hyper sûr de pouvoir faire ça, mais que lui, dans l'idéal, ce qu'il voulait faire, c'était faire ce qu'on appelle un round-up. En fait, tu prends le téton, tu coupes autour,
d'accord.
Tu le mets de côté, je sais pas ce qu'il fait, et tu fais ton truc par là, comme une poche à douille, et tu refermes et tu recoues autour.
Okay.
Mais il n'était pas sûr de pouvoir le faire, parce qu'il peut y avoir plein d'aléas au moment de l'opération qui font que ce n'est pas possible. Donc s'il ne pouvait pas faire ça, du coup, il coupait en dessous du sein.
D'accord.
Enfin, tu vois, tu as le téton, donc une cicatrice comme ça et une cicatrice comme ça. Et du coup, ça te fait quand même des cicatrices, mais ça t'évite la mastectomie.
Ouais.
Et s'il y avait un autre problème, faire une mastectomie.
D'accord.
Donc moi, avant l'opération, j'étais là, bon, bah, je ne sais pas trop. Je vais me réveiller et puis on verra bien ce qu'il y a.
Mais... Ah oui, parce que du coup, tu ne pouvais pas le savoir, toi, ce qu'il y a.
Ben lui, enfin moi, après, des fois, tu ne comprends pas très bien ce que disent les médecins aussi, parce qu'en plus, tu as le cerveau embrumé par plein de trucs. Du coup, c'est un jargon médical qui arrive non-stop.
Ouais.
Tu oui, es un peu à l'ouest, puis la chimio ça rend un peu à l'ouest aussi. Du coup, j'étais un peu en mode faites ce que vous avez à faire, et puis vous m'appelez quand c'est fini,
ouais.
Et vous me direz quoi. Surtout que moi, du coup, je m'étais préparée à la mastectomie.
D'accord.
Dans ma tête. Je m'étais dit, j'aurai plus de seins.
Okay.
Il m'en manquera un. Et en fait, je m'étais tellement fait à l'idée que ça me dérangeait plus. Parce que c'est comme ça en fait. Enfin, pourquoi les seins, ça sert à rien, tu vois. C'est pas un organe vital. Et ça sert juste pour son estime de soi, parce qu'on a l'habitude de les voir, parce que c'est quelque chose qui fait partie du corps, mais en fait, on n'en a pas besoin. Donc, je me suis dit, je ferai ça, en fait, ce sera mon corps, il est comme ça. Et puis, si j'arrive pas à pécho parce qu'il me manque un sein, c'est que c'est des mecs un peu qui ne me correspondent pas, qui sont un peu nuls, en fait, parce que je suis autre chose qu'une paire de loches, tu vois. Du coup, je m'étais fait à l'idée, et j'ai eu presque une petite déception quand j'ai vu que finalement il avait pu faire le truc sans cicatrice. J'ai aucune cicatrice. J'ai juste, du coup, il a perdu une taille puisqu'ils ont enlevé, ils ont enlevé de la matière, notamment la tumeur.
Ouais.
Mais j'ai zéro cicatrice comme il a coupé autour du téton. Du coup, ça, la cicatrice est autour du téton, donc on voit rien.
Ah oui, il a fait autour du téton, ce que tu disais en premier.
C'est
d'accord.
Ça. Du coup, j'ai aucune cicatrice.
Putain, c'est ouf.
Ouais. Je pensais que tu en avais. Merde, toujours une.
Non, je te montrerai si tu veux, mais c'est fou quoi. Vraiment, on voit rien. C'était presque décevant. Je garde pas, merde.
Comment ça s'est passé à ton réveil? Hormis cette déception-là.
J'étais pas si déçue que
j'ai
ça quand même.
Mais...
ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai quand même une cicatrice sur l'aisselle, du coup, là où ils m'ont enlevé les ganglions, histoire quand même.
Okay.
Sinon, c'est chiant si on a zéro cicatrice, pas de souvenir. Comment je fais pour me faire tatouer gratuitement, moi, après? Et le réveil, c'était nul, hein, réveil d'une anesthésie générale, c'est pourri, t'es dans le coltard. C'était le jour d'Halloween en plus, je me rappelle. Meilleur costume d'Halloween, tout chauve et dégueulasse avec le teint vert dans ta salle d'hôpital. Et du coup, c'est plutôt bien passé. En fait, après, j'ai passé 2 jours à l'hôpital à attendre que le chirurgien arrive et parce qu'il m'avait mis des drains. Pour drainer la lymphe. En fait, c'est des espèces des drains, c'est des espèces de petits tuyaux.
Pour le passage de...
Ouais, en fait, ça draine le sang et la lymphe.
D'accord.
Qui s'accumuleraient en fait à l'intérieur si c'était complètement refermé.
Ok.
Du coup, t'as des fils qui pendent avec des boules, qui sont des récipients, qui récupèrent du sang et de la lymphe. Du coup, tu te balades partout avec une poche et des petites gourdes. Qui te récupère et tes fils.
Ouais.
C'était assez sympa, tu dors, t'es là.
Ouais.
Ah oui, non, mince. Et bon, après, ça va finalement, j'ai pas passé tant de temps que ça à l'hôpital, j'ai passé 3 jours.
Et quand du coup, donc tu te réveilles, on a pu enlever tout ce qu'il fallait enlever. Pour toi, ça veut dire que t'es guérie? Comment ça se passe?
Non, en fait, du coup, tu te fais opérer.
Ouais.
Et ensuite, le chirurgien envoie la tumeur qu'il a enlevée à l'anapath.
Okay.
L'anapath, c'est ceux qui t'ont fait la biopsie déjà, qui t'ont analysé la biopsie au début.
D'accord.
Et là, du coup, ils envoient la tumeur. Et en fait, quand ils enlèvent la tumeur, ils prennent genre un demi centimètre autour, tu vois, un truc comme ça.
Ouais.
Et du coup, ils analysent cette zone autour de la tumeur pour vérifier s'il ne reste pas de cellules cancéreuses autour.
D'accord.
Et du coup, ça dépend de ça, si tu es soigné ou pas.
Ok.
Et donc, ces résultats, tu les as 3 semaines, je crois, après l'opération. Ça dépend de comment ça va vite. Moi, je crois que j'ai attendu... Je crois que j'ai attendu 2-3 semaines.
Ouais, donc tu as quand même encore une
attente. Oui, tu as encore cette attente-là où tu sais que si ça n'a pas marché, tu repars sur un autre protocole de soins, ou peut-être une autre chimio, peut-être une autre opération, une mastectomie par exemple.
Ok.
Donc tu sais pas trop. Et bon, moi finalement, j'ai eu de la chance et ça a fonctionné. C'est bon.
D'accord.
J'ai eu rendez-vous avec le chirurgien, il m'a dit « Vous êtes guérie ?» Ouais. Et c'est là aussi que c'est le problème de cette maladie, où t'es guérie, mais en fait, t'as encore plein de trucs à faire. T'as beau être guérie, mais il te reste la radiothérapie.
La radiothérapie,
moi, ça s'est pas très bien passé, en plus. C'est des rayons. Donc, en fait, c'est comme un scanner. T'es sur une table, et t'es dans le tube pendant...
Ouais.
La durée, ça dépend des gens. Moi, ça durait une vingtaine de minutes, en gros.
D'accord.
Et c'est tous les jours. Du coup, il y a une régularité qui fait que c'est pendant un mois et demi. Tous les jours, tu vas à l'hôpital, sauf le week-end. C'est quand même, t'étais au week-end. Moi, au début, je pensais que c'était aussi le week-end. J'étais décomposée, j'étais là, quoi ? Pendant un mois, je peux pas bouger du tout. Je suis claustrophobe, en plus. Du coup, j'étais là, mais je vais me retrouver enfermée, sans pouvoir bouger, dans un tube, en sous-sol. Nul. Bon, en fait, ça va, j'avais les week-ends tranquilles où je pouvais un peu souffler.
Et ça brûle. Pour tout éliminer.
Ça cautérise, en fait. Alors, si j'ai bien compris.
Ouais,
c'est ça. C'est pour cautériser de l'intérieur la lésion, ce qui reste de la lésion après l'opération. Et sur les ganglions, là, du coup. C'est hyper précis comme traitement. D'abord, ils te font un scanner de dosimétrie pour vérifier exactement où ils vont mettre les rayons, à quelle dose.
Ouais.
Ils te font des petits tatouages. J'ai eu mes premiers tatouages gratuitement, du coup, à l'hôpital. Des petits points, comme ça, pour vérifier. C'est des marqueurs, voilà.
D'accord.
Des marqueurs pour les manipulateurs, après, pour qu'ils te placent bien. Tu as des lasers sur le corps et tes petits points, et tout est bien aligné. Et du coup, c'est au millimètre près, quoi, le truc. Donc, tu n'as pas du tout le droit de bouger. Moi, qui suis un peu hyperactive et claustrophobe, c'était super. Passer 20 minutes sans bouger... sans aucune stimulation de quelque sorte.
Ouais.
C'était assez compliqué, j'ai fait des crises d'angoisse dans le truc.
Comment ça s'est passé du coup, on t'a fait sortir ?
Ouais, ben en fait, la première fois, au début, les premières séances, ça s'était bien passé. Et il y a une séance où j'avais pas le bouton pour les appeler. Et là, j'ai commencé à me sentir mal.
Et
j'avais pas le bouton pour les appeler. Et je sais qu'il faut pas bouger, parce qu'en plus, c'est des radiations. Et j'avais regardé la série Tchernobyl un peu avant, tu vois. Donc, un peu parano des radiations. Ouais. J'étais là. Oh non, à respirer fort, pensée positive. Imagine que tu es sur l'océan, là, bien tranquille. C'était un peu chaud. En soi, je pense qu'il devait rester 5 minutes, tu vois. Mais en ressenti, c'était 6 jours.
Bah ouais.
Donc dès que je suis sortie, je leur ai dit plus jamais, oublie le bouton. Si moi j'oublie un jour, faites-le moi penser. Et du coup, depuis ce jour-là, à chaque fois, je l'ai harcelé. Dès que peine j'arrivais dans la salle, je dis « donnez-moi le bouton au cas où ». Et juste le fait, après, d'avoir le bouton, ça m'a aidé, parce que je savais que si j'avais le moins de problèmes, de toute façon, c'était un lien avec le monde extérieur, en fait. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de devoir faire plein de pauses à chaque fois. J'étais un peu jusqu'à présent, j'étais la patiente cool, qui faisait rigoler les gens et tout, qui était hyper positive. Et là, je suis passée patiente relou, qui met deux fois plus de temps. Non, mais là, je veux faire une pause, je ne me sens pas bien. Mais bon, ils ont tous été trop cool, hyper bienveillants. Enfin, de toute façon, là, depuis tout ça, moi, j'ai un amour inconditionnel pour tous les infirmiers, infirmières et aides-soignants et manipulateurs du monde. C'est les meilleures personnes. Ils sont trop cool.
Donc, tu as fait un mois de radiothérapie et ensuite ?
Et ensuite, ça, c'est fini il n'y a pas très longtemps. Là. Ça s'est fini il y a deux semaines, un truc comme ça.
Ah, c'était il y a deux semaines ?
Ouais, il y a deux, trois semaines, ouais. Et du coup, là, j'ai encore ce qu'on appelle l'immunothérapie. Qui est c'est une injection que j'ai toutes les trois semaines, c'est comme une chimio. Du coup, là, moi, ils m'ont enlevé le cathéter que j'avais là et ils m'ont placé ce qu'on appelle une chambre implantable.
Okay.
C'est un petit boîtier que j'ai là sous la peau.
D'accord.
J'ai la cicatrice ici, là,
Ah oui, okay.
De la pose. Et du coup, ça passe par là et c'est une perf, c'est assez court, c'est toutes les trois semaines et j'ai la dernière le 20 août. Du coup, j'en ai encore pour un moment. Ce que je te disais, tu vois, c'est une maladie, t'es soignée, mais t'en as encore pour longtemps. Et pendant 5 ans, j'ai l'hormonothérapie aussi. Du coup, le premier truc qu'ils ont fait, dès qu'on a appris pour le cancer, c'est qu'ils m'ont mis sous décapeptyl. C'est une piqûre que tu as tous les 28 jours, qui te met en ménopause artificielle. Du coup, je suis ménopausée artificiellement depuis mai. Dès que je vais faire une prise de sang, ils me demandent la date de mes dernières règles. Et je suis là, je ne sais plus, c'était il y a très longtemps.
Et du coup, pourquoi ?
Et ça, du coup, c'est en fait, il y a plein de types de cancers du sein. Et celui que j'ai, il est hormonodépendant, donc il se nourrit d'hormones.
D'accord.
Enfin, que j'avais, parce que là, je ne l'ai plus. Je parle encore au présent, parce qu'il y a encore des traitements. Mais en vrai, non, je suis cancer-free, je suis soignée. Mais c'est dur de se le mettre dans la tête, comme tu es encore dans tellement de traitements. T'es là, mais je suis plus malade, mais laissez-moi tranquille, du coup, ouais. C'est bon. Et il est voilà, donc il est hormonodépendant, d'accord. Donc il se nourrit d'hormones. Donc, ils te mettent en ménopause artificielle pour que tu arrêtes, que ton corps sécrète vachement moins d'hormones, okay. Et on lui coupe les vivres, tu vois.
Et ça veut dire que du coup, là, ménopause artificielle, ça va rester comme ça. Tu vas pas...
Pendant 5 ans.
Pendant 5 ans. Ouais. Et après, tu reviendras...
Et après, on verra ces 5 ans ou plus.
D'accord.
En fonction de choses que je n'ai pas trop compris et que je n'ai pas encore demandé, parce que c'est dans 5 ans, donc ouais. On verra en temps voulu.
Oui,
et donc, j'ai ce décapeptil qui met en ménopause artificielle. Et là, depuis pas longtemps, en parallèle, j'ai un autre médicament, une pilule à prendre tous les jours, qui est une hormonothérapie aussi, et pareil, qui aide à vraiment bloquer toute sécrétion d'hormones, œstrogènes, tout ça, plus rien.
Ok. Comment tu te sens maintenant et qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au corps, dans ton rapport aux autres, comme tu me disais tout à l'heure?
Moi qui étais un peu... moi j'étais assez pudique, vraiment très pudique. Je ne me montrais pas trop. Enfin, ça allait... Je sentais que ça commençait à aller mieux, tu vois, je faisais un peu des efforts.
Ouais.
Mais je restais quand même assez pudique, j'aimais pas trop mon corps. Et maintenant, bah, le nouveau 5G, je l'adore, il est trop beau. Du coup, j'étais...
Quand tu as dit le nouveau 5G, j'ai pensé à 5G, 4G.
Ouais, c'est ça. Je capte hyper bien, ils m'ont installé une antenne. C'est trop... Je suis bionique. Mais tu sais que je sonne sur les portiques. Je suis allée au musée de la musique, là. Et du coup, à cause du cathéter, là, j'arrêtais pas de sonner. Du coup, j'ai mis le vigile un peu mal à l'aise. Je lui ai dit, non, mais c'est parce que j'ai un cathéter.
Ouais, ouais, ouais.
Il m'avait dit que ça sonnerait pas, en plus. Mais en fait, ça sonne. Donc, je suis un peu bionique. Mon corps a été upgradé par la médecine. Et... du coup, j'étais pas très à l'aise dans mon corps. Et là, le nouveau 5G, je l'aime. C'est un peu comme si on m'avait offert des nouveaux vêtements, tu vois, ou un nouveau truc. J'avais changé de coupe. Mais du coup, je suis plus responsable, en fait, de mon corps. C'est un peu bête, mais tu vois, mes seins, je les aimais pas trop. Et là, bah, du coup, j'en ai des nouveaux. Mais c'est même ce que je l'aime ou que je l'aime pas, en fait, c'est quelque chose qui est médical.
Ouais.
Et du coup, c'est pas ma faute. Et du coup, même si... je sais pas, même s'il y a des gens qui l'aiment pas, tu vois, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Alors c'est un peu nul de penser ça, parce que du coup, tu restes un peu dans la culpabilité de ton corps, mais...
Mais tu dis beaucoup, c'est pas ma faute, c'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit que c'était de ta faute.
Enfin, si bah, c'est pas ma faute, c'est plus sur mon rapport au corps, où moi j'étais très pudique, et j'aimais pas trop mon corps, et je me montrais pas trop parce que j'aimais pas trop ce que j'étais.
Ouais.
Et tu vois, un peu costaud, oui, bah, je mange trop, je fais pas de sport, mais en même temps, j'aime bien manger. Mais du coup, j'étais un peu désolée de ce que je faisais, tu vois. Et là, bah, du coup, c'est médical. C'est désolée, c'est la science.
Ouais.
C'est comme ça, c'était pour me soigner. Du coup, c'est... Après l'opération, j'étais en mode exhib. Quoi. Je montrais mes seins à tout le monde. Oh, regarde, il est trop beau, t'as vu, regarde, il a fait un taf de ouf, c'est trop beau. Donc, bon, arrête, on en a marre de voir tes seins tout le temps.
Et moralement, du coup, comment ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu es passée par des phases compliquées?
Je suis passée par des phases bien down, ouais. Surtout sur la radiothérapie, là, où j'étais vraiment pas bien. Avant, ça allait parce que je m'étais pas du tout posée une seule fois pour réfléchir.
Ouais.
Et t'es dans l'action. En fait, on t'a donné une mission avant, tu vois. T'es malade, il faut te soigner. Du coup, tu prends le taureau par les cornes et t'y vas et tu dis, bon, vas-y, le but, c'est me soigner.
T'as pas eu de moment où, justement, toi, t'es rentrée direct dans « je suis malade, je vais me soigner ». T'as pas eu le moment, genre, au secours.
C'est ça. J'en parle avec mon chirurgien, il me disait, les gens, la première étape, c'est d'accepter la maladie. Et il m'a dit, vous l'avez fait très vite. Enfin, vraiment, moi, c'est vrai qu'en 3 jours, le truc, c'était géré. J'étais là, bon, ok, en fait, il y a un problème, il y a des solutions et on y va et ça sert à rien de tergiverser et il faut le soigner.
Okay.
Et du coup, une fois qu'il est soigné, eh ben, il reste plein de trucs à faire et tu commences à être un peu fatigué, te dire oh, « vas-y, j'en ai un peu marre là
».
Et là, c'était un peu dur parce que tu vois l'après aussi où il faut se reconstruire, il faut retrouver du travail, il faut rechoper, il faut se refaire des amis. Mais du coup, tu n'es plus la même personne. C'est recommencer. En fait, tu as l'impression de finir un marathon ou une énorme randonnée et en fait, tu es revenu au point de départ. Mais juste un sac à dos 10 fois plus lourd parce que tu as ramassé plein de cailloux. Et du coup, il faut que tu continues ta randonnée. La vie, elle continue. Mais tu n'es plus du tout la même personne. Et tu as vécu un truc qui est quand même un peu chaud, tu vois, un peu dur. Du coup, c'est ton rapport avec les autres, il est un peu niqué, quoi. Enfin, niqué. Il n'est pas niqué, mais tu te rends compte de plein de prises de tête, de choses auxquelles on réfléchit tout le temps. Tu vois, le fait de vivre en ville, comme je te disais, enfin...
Ouais.
De courir partout pour choper son bus, pour machin, avoir un boulot et tout. Moi, j'ai eu une grosse période de « mais pourquoi je devrais retravailler? Pourquoi on travaille ?» Enfin, non. J'ai pas du tout envie, moi, de galérer à bosser pour avoir de l'argent pour rentrer chez moi. Pour faire quoi? Pour... Enfin, non, c'est nul.
Plus avoir le temps de vivre.
Ouais, 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 c'est ça. En fait, c'est débile. Ouais. Mais bon, après, voilà, faut... Si, non, tu te rends compte aussi qu'il faut... Tu vas pas passer ta vie à élever des chèvres. De toute façon, il faut des sous pour élever des chèvres. Donc, dans ouais. tous les cas, il faut travailler. Enfin, c'est... T'as tout un moment de réadaptation de ta vie, là, qui est un peu... Mais je suis encore dedans, hein, à repenser plein de choses.
Oui, c'est ça. C'est que quand même, t'es encore dedans en ce moment.
Bah, c'est ça.
T'as toujours les traitements, ce suivi, ouais. etc., qui fait ouais. que c'est pas non plus loin c'est derrière ça. Toi, quoi.
Mais du coup, t'es encore dans les traitements, mais tu dois quand même penser à... Déjà, c'est après, parce que là, tu vois, je suis au RSA depuis le début de la maladie. À un moment, moi, j'en ai marre, tu vois, j'ai envie d'avoir un appart et de pouvoir, je sais pas, aller voir mes grands-parents en vacances. Bon, je le fais déjà. Ouais. Mais, et puis même, si tu passes beaucoup de temps sans travailler, tu perds un peu la confiance aussi.
Bah, oui.
Tu vas sur... là, je regardais un peu les offres d'emploi et j'étais là, ah non, mais je suis pas du tout capable de le faire. J'ai trop perdu. Mon Dieu, comment je vais faire? Bah, c'est débile, en fait. Si tu peux, t'as pas perdu tes capacités, mais t'as perdu la confiance parce que t'es passé dans un rouleau compresseur énorme. Ton cerveau, il a charbonné plein de trucs pendant des mois. Et là, du coup, il a pas le temps de se poser. Et direct, il faut lui remettre, le remettre dans le dur et dans le travail. Et c'est trop bizarre, la notion de travail.
Tes proches, tes amis et tout, ça s'est bien passé avec eux?
Ouais. Franchement, j'avais un peu peur parce qu'on m'avait dit... On m'avait beaucoup dit, tu vas voir. Enfin, j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont eu des cancers du sein.
Okay.
Et c'est, ou des cancers tout court. Et c'est globalement des gens un peu pessimistes quand même.
D'accord.
Et du coup, beaucoup de gens m'avaient dit, tu vas voir. Et les autres, tu vas faire du gros ménage. Il ne sera que quelques amis, mais tu vas voir. Tout le monde va dégager. Non. Enfin, moi, vraiment, tout le monde a été hyper bienveillant, hyper cool. Et même s'il y a eu des comportements qui peuvent être, je pense, considérés comme un peu déplacés. Moi, je ne l'ai pas du tout mal pris parce que moi, la première, si ça était arrivé à une copine à moi, je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi. Et même maintenant, si ça arrivait avec une copine à moi, ben, je ne saurais pas comment réagir parce que tout le monde n'attend pas les mêmes réactions.
Oui, bien sûr.
Moi, je sais que j'avais peu d'attentes des gens aussi. Tu vois, je savais que je ne pouvais pas leur demander beaucoup. Enfin, c'est que des humains. Le problème, c'est moi qui dois le gérer. Je me suis beaucoup reposée sur ma mère quand même. Qui a beaucoup été là. Heureusement, j'ai une famille très présente. Du coup, ma famille, ça a été un peu le gros pilier. Et du coup, ça a même rapproché ma famille. Mes parents habitent sur Toulouse, ma famille est sur Bordeaux. Et mes parents n'étaient pas trop sur Bordeaux. Et du coup, ils sont venus toutes les 3 semaines pour les premières chimios. Et du coup, il y a eu plein de fêtes de famille qui ont été très cool. Tout le monde se bourrait la gueule. Moi, je buvais mon Perrier, mais c'était trop bien. Passer des moments en famille qu'on n'aurait pas passé, en fait, finalement, sans ça. Donc, il y a eu quand même beaucoup de bons qui est ressorti de tout ça.
Est-ce que le cancer, c'était quelque chose dont tu avais conscience? Là, tu me disais que dans ta famille, il y avait déjà eu des cancers, mais c'était quelque chose que tu imaginais qui pouvait t'arriver peut-être? Ou c'était quelque chose qui pouvait arriver adulte, très lointain?
Pour moi, c'était quelque chose qui est arrivé à partir de 45 ans, tu commences à te poser la question, quoi. Moi, à 25 ans, ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit que ça puisse arriver. Et du coup, ils ont fait des analyses de génétique aussi pour voir. Parce que comme il y en a eu d'autres dans ma famille, ils ont analysé mes gènes. Je suis allée voir ce qu'on appelle une oncogénéticienne.
Okay.
Métier de niche quand même.
Ouais,
oncogénéticienne. Donc elle analyse, tu fais un arbre généalogique avec elle. L'arbre généalogique de la maladie, quoi. Du coup,
d'accord.
J'ai dû y aller avec ma grand-mère parce que moi, il y a plein de trucs que j'étais pas trop au courant. Et du coup, on a fait l'arbre généalogique de côté.
D'accord.
Et donc, ils t'analysent. Et en fonction des résultats, s'ils trouvent, parce qu'ils ont identifié... je ne sais plus, quelques gènes qui sont porteurs de cancer gynécologique. Donc,
d'accord.
C'est sein et utérus. Et moi, il y a eu sein et utérus du côté de mon père. Du côté de ma mère, il n'y a eu que sein et je crois, je ne sais plus, un autre. Bon, j'ai oublié.
Okay.
Et du coup, ils ont analysé, ils ont regardé l'arbre généalogique. Ils ont dit, ah oui, là, ça a l'air de puer un peu du cul du côté de chez papa.
D'accord.
Du coup, on va faire les analyses. Quand les résultats arrivent, s'ils ont identifié ces 3 gènes qui sont porteurs, un des 3 gènes qui est porteur, ils analysent tes parents.
Okay.
S'ils le trouvent chez un des parents, il faut que tu appelles toutes les femmes de la famille pour leur
dire,
on a le gène.
Okay.
C'est le BRCA, je crois. Angelina Jolie, c'est ce qu'elle a.
D'accord.
C'est pour ça qu'elle s'est fait une double mastectomie en prévention, du coup.
Okay.
Ce qu'on appelle le BRCA1 et le BRCA2, il y en a un autre.
Okay.
Et moi, du coup, j'ai fait ces analyses-là.
Ouais.
Et il y a cinq stades. Et je suis au stade du milieu où on ne sait pas.
D'accord.
Pratique.
Bah ouais.
Ils m'ont dit, on ne sait pas. On part du principe que ce n'est pas génétique.
Okay.
Mais on ne sait pas. Du coup, on ne sait pas du tout d'où ça vient, quoi.
Putain, putain, c'est ouf.
Okay. Ouais, c'est ça, pareil, c'est une maladie, tu peux pas trop savoir. Sauf si c'est génétique.
Ouais.
Mais sinon, tu peux pas trop savoir d'où ça vient, quoi. Ça peut être les déos, j'ai pris la pilule très jeune, ça peut être plein de choses. Je sais que ma mère, du coup, ça l'avait mis un peu... Elle s'était posé beaucoup de questions, parce que du coup, comme j'ai pris la pilule très jeune, c'était elle qui avait un peu poussé le truc aussi.
C'était quoi, très jeune?
Très jeune, je devais avoir... J'étais en sixième, j'allais dire n'importe quoi. Non, pas si jeune. J'étais en seconde. Mais j'avais pas de vie sexuelle ni rien, en fait, c'était juste parce que j'avais des boutons et les règles douloureuses.
Ouais.
Et du coup, bah, ma médecin généraliste avait dit, oh, bah, on va lui mettre la pilule. Ma mère avait dit, ah oui, c'est très bien ça.
Ouais.
Et je lui en veux pas du tout à ma mère, c'est normal. Moi, je pense que j'aurais fait pareil à l'époque, tu vois. Mais du coup, elle s'en est beaucoup voulu.
Oui.
Elle me l'a dit que récemment, là, mais elle s'en est voulu parce que c'est des choses qui sont maintenant vachement décriées, où on dit que peut-être ça peut causer ça, mais encore, c'est des peut-être, tu vois.
Oui, bien sûr.
On n'en sait rien.
Je pense que dans tous les cas, quand tu as... une mère qui est proche de toi, il y a un sentiment de culpabilité.
Oui, c'est ça.
Face à la
mère. Du coup, c'était marrant quand on allait à l'hôpital, tout le monde allait vers ma mère à chaque fois. Ouais. J'étais là derrière. Non, c'est pour moi. Ah bon. Ma toute première chimio, à côté de moi, dans la salle, il y avait une nana qui avait l'âge de ma mère. Parce que tu donnes, avant chaque traitement, tu déclines ton identité, tu donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, pour éviter qu'il y ait des mauvais traitements. Ce serait con de se retrouver avec le traitement de quelqu'un d'autre. Et du coup, elle avait donné sa date de naissance, elle avait le même âge que ma mère.
Ouais.
À un moment, ma mère, elle part pour boire un café ou je sais pas quoi. Et il y a un rideau qui nous sépare. Je vois sa petite tête qui se dépasse du rideau comme ça. Excusez-moi, mais vous avez quel âge? 25 ans.
Ouais.
Bon, c'est hyper jeune.
Ouais.
Bon, ouais, je crois. Écoute, au moins c'est fait comme ça.
Et t'as rencontré des nanas qui avaient ton âge ou qui étaient plus jeunes?
Ouais, j'ai rencontré une asso de jeunes malades sur Bordeaux. Et alors, je suis la seule à avoir eu un cancer du sein. Eux, ils ont tous eu des trucs de ouf. Genre, des maladies vraiment très graves et vraiment très jeunes. Beaucoup, tu vois, à l'adolescence, 17, 18, 19 ans, tu vois. Fin d'adolescence.
Okay.
Mais des tumeurs au cerveau, des lymphomes, des cancers de l'utérus. Et du coup, ça fait vachement relativiser aussi de rencontrer des gens comme ça. Parce qu'un cancer du sein, finalement, au pire, on t'enlève les deux seins. Bah, tu fais 100. Cancer de l'utérus à 17 ans. On t'enlève l'utérus, bah du coup, tu sais que... Moi, je sais que je pourrais peut-être pas avoir d'enfant, mais j'aurais quand même la possibilité de le faire et je peux m'arranger, j'ai quand même 25 ans. Là, à 17 ans, du coup, tu te poses même pas la question, quoi.
Ouais.
C'est un utérus. Et puis du coup, enlever l'utérus, je pense que ça veut dire que t'es un peu en ménopause aussi.
Ouais, ouais.
Et du coup, tu te développes pas pareil au niveau de tes hormones. Enfin, c'est des choses vachement plus graves, quoi. Du coup... Moi, j'étais là avec mon petit cancer du sein, bien tranquille, quoi.
Genre, mais ça t'a aidé, quand même.
Ouais, ça m'a aidé, ouais. Mais déjà, au niveau des discussions, parce que c'est vrai que finalement, les seuls gens qui ont la même maladie que moi, c'était des mamans, quoi.
Bah, ouais.
Tu vois, tes mamans, vie de famille. Là, je regardais, je lisais un peu des articles, du coup, comment se reconstruire après un cancer du sein, même les documentations que t'as à l'hôpital et tout. Et en fait, tout part du principe que quand ça t'est arrivé, t'avais un boulot et t'avais une vie de famille. C'est comment raviver la flamme avec son mari, faire garder ses enfants, réadapter son poste de travail. Mais ce qui est normal, parce que c'est fait pour la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens, ça leur arrive à 45-50 ans,
après 40
où t'as
ans.
Un métier,
t'es installé,
t'as un mari, t'as des enfants. Moi, j'étais là, ben, je vais pas me reconstruire, me reconvertir, faut déjà que je me convertisse tout court. En fait, ma vie professionnelle, elle est au niveau 0,1. J'ai pas d'enfant. Ça va être galère, cette histoire. Puis du coup, comme je suis en ménopause, la libido, c'est pas ouf.
Ouais.
Et ça, c'est pendant 5 ans. Donc je sais que je pourrais recommencer à baiser à 30 ans, c'est cool.
Ouais, est-ce que t'en as voulu à ton corps?
Je m'en suis voulu à moi aussi beaucoup, parce que je l'avais mis un peu à rude épreuve, mon corps. Enfin, je faisais beaucoup la fête. Je le fais encore un peu, mais quand même avec parcimonie maintenant. Je faisais beaucoup la fête. J'ai un travail du coup où tu dors très peu. Hein, quand tu es sur les festivals, c'est une hygiène de vie qui n'est pas ouf. Tu dors 2 heures, tu charbonnes, du coup tu bois du café, tu fumes des clopes.
Ouais.
J'avais une hygiène de vie qui n'était vraiment pas dingue et du coup, je m'en suis quand même pas mal voulu de ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas mon corps qui me dit « Bon, écoute, maintenant, moi, j'ai envie de me reposer et d'arrêter de courir partout et d'être dans le stress et de faire la fête à tout va et de dormir 2 heures par nuit, tu vois.
Ouais. »
Et du coup, mon corps, je lui ai dit « Ok, bon, désolé, on va se calmer. »
Ok.
Pour ça que là, du coup, j'ai envie d'un boulot un peu plus calme, de me reconvertir un peu, rester dans la musique, tu vois, mais plus être sur des exploits de festival où du coup tu cours partout et tout devient la moindre source de stress, quoi. S'il manque une gourde quelque part, c'est un incident, tu vois. Et pff, j'ai plus envie de ça. Il y a des gens qui ont le coffre qu'il faut pour assumer ce stress-là. Moi, je pensais que je l'avais, mais visiblement, je pense que mon corps m'a dit non, pas trop, en fait.
Okay.
Après, ça, voilà, c'est moi qui fais des analyses sur la comète, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Oui. Non, mon corps... après, si, forcément, j'aurais préféré quand même rester comme avant, tu vois. C'était un peu plus confortable. Puis... j'étais en bon lit en social, j'avais le cerveau qui percutait très vite, faire tout le temps des blagues et tout. Là, je suis un peu au ralenti maintenant.
Okay.
Je suis moins alerte. Ça, c'est un des effets secondaires de la chimio qui commence à être un peu étudié. C'est que ça te ramollit un peu le cerveau. Je ne saurais pas comment le dire dans des termes médicaux. Ça se trouve, il y a un médecin qui va voir et qui va dire pas du tout, c'est pas ça.
C'est comme tu l'as vécu.
Mais c'est comme ça que je le ressens. Et c'est vrai que j'ai vu des ateliers un peu... pour remuscler un peu son cerveau, entre guillemets, quoi. Parce que j'étais à l'ouest, je mettais vachement plus de temps à percuter les choses.
D'accord.
Après, c'est qu'aussi, avant, j'avais vraiment un esprit très rapide, tu vois. J'analysais très vite les situations, c'est ce qui faisait un peu ma force. Et maintenant, je sens que j'ai besoin de plus de temps. Je suis un peu plus lente. Mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça, mais il faut juste que j'apprenne à composer, quoi.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme de ton âge, certainement ? Qui découvre à l'instant, qui vient de découvrir qu'elle était atteinte d'un cancer du sein ou d'un cancer en général.
C'est un peu compliqué de savoir quel conseil donner à quelqu'un qui l'a, parce qu'on est tous différents,
bien
en fait.
Sûr.
Mais je lui dirais, je pense que si là il y a une nana qui vient d'avoir un appel ou qui sort d'un rendez-vous avec son gynéco ou avec son chirurgien, j'en sais rien, faut pas qu'elle ait peur, tu vois. Ça se soigne, il faut essayer de faire confiance au médecin quand même et pas avoir peur. Ouais, ça va le faire. Garder confiance en soi, en son corps aussi, finalement. Et puis si tu es jeune, de toute façon, tu es beaucoup plus réceptive au traitement.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est un peu dur. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ? Je sais pas, j'aurais aimé, je pense, quelqu'un qui te prend dans tes bras et qui te dit t'inquiète pas, ça va le faire, tout va bien se passer, n'aie pas peur. Parce que c'est ça aussi beaucoup, quand t'as peur, t'es en tension et ton corps, t'es dans le stress. Et du coup, forcément, le stress, je pense que c'est le truc le plus mauvais qu'il peut y avoir pour ton corps.
Mais c'est difficile de ne pas avoir peur,
j'imagine. En fait, moi, ça a été tellement naturel. La peur, je l'ai eue après. Maintenant, je suis hyper flippée. Des fois, la nuit, j'ai peur de mourir, tu vois. Je suis là, genre, si je fais un AVC cette nuit et tout, c'est débile, j'ai aucune chance. En plus, je suis suivie au niveau du cœur et tout va bien, tu vois. Mais maintenant, j'ai peur parce que je pense que j'ai le recul et où je réalise que j'ai vécu quelque chose qui mettait ma santé en danger. Mais sur le moment, c'est vraiment comme si on m'avait donné une mission. Soigne-toi. Ok, je me soigne. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose en plus. C'est les médecins qui ont tout fait. Et c'est en fait, voilà, quand t'arrives sur l'après, les médecins, ils font plus grand chose. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, eh ben, c'est toi. C'est à ton tour de bosser. Oh, c'est chiant, c'était pratique quand c'était les médecins qui faisaient tout. Et moi, j'avais juste à dire, allez, c'est bon, ça va, je vais le faire.
Et est-ce que le cancer du sein, du coup, c'est un truc qui va toucher, du coup, à ta féminité plus qu'un autre cancer en règle générale, si tu as pu en parler peut-être avec d'autres femmes, est-ce que ça va être plus grave et ça va plus jouer sur ta féminité, sur le fait d'être une femme, d'avoir ça au sein, à ta poitrine, ou ça change pas grand-chose ?
Eh bien, je pense que ça dépend des gens, comment ils le vivent, mais moi, de mon point de vue, finalement, ça touche moins la féminité qu'un cancer de l'utérus, par exemple. Enfin, finalement, ça revient à la question de qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est une femme ? Est-ce que c'est d'avoir un utérus ou est-ce que c'est d'avoir des seins ? Finalement, pour moi, je pense que c'est peut-être ni l'un ni l'autre, j'en sais rien, j'ai pas de réponse. Mais je pense qu'il faut relativiser et se dire que c'est que des seins, tu vois. Au pire, tu perds un sein, tu perds les deux seins. On fait 100, tu vois. Enfin, je comprends qu'il y ait des gens que ça touche, parce que c'est vrai que c'est un organe qu'on voit, et on est habitué à une silhouette avec des seins,
oui,
mais
tu vois,
des femmes plates, elles sont très belles, en fait.
Hein.
Du coup, après, il y a peut-être un truc sur l'allaitement aussi. Parce que c'est vrai que ça sert pour l'allaitement. Je sais pas, après moi j'ai pas d'enfant, j'en veux pas forcément, donc Ça, c'est des questionnements que j'ai pas eu beaucoup.
D'accord.
Mais c'est le seul. En fait, ça sert qu'à ça, tu vois.
Ouais.
C'est même pas une. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est même pas une zone érogène dingue, tu vois.
Ouais.
C'est plus un truc qui plaît au mec que qui plaît à toi. Donc en fait, bah, au pire, tu fais sans sein, tu vois. Un utérus, c'est un peu plus.
Oui, oui.
C'est là, ça a une utilité, tu vois, au niveau de ton corps.
D'accord.
Et moi, j'ai vachement relativisé comme ça, quoi.
Ok.
Je me suis dit, bah, ma féminité, est-ce que c'est les seins qui les font finalement?
Ouais.
Bah non.
Ouais, mais ça doit être difficile.
Ouais, oui, oui.
Les cheveux et la poitrine.
Oui, oui, c'est vrai que ça fait. Oui, tu perds cheveux et seins.
Ouais.
Donc ça, mais c'est bizarre parce que moi, vraiment, ça m'a pas. Enfin, moi, j'avais vraiment peur des trucs médicaux, tu vois. Genre vomissement, fatigue. Parce que j'avais une amie de ma tante qui en avait un, et avec le Taxol, justement, elle me disait qu'elle dormait 3 jours de suite, tu vois.
Ah oui,
moi, j'avais trop peur de ça. Moi, j'avais peur de vomir, de faire que dormir,
ouais.
De ce genre de trucs. Mais perdre mes cheveux, perdre mes seins, je trouvais que c'était rigolo, en fait. Parce que finalement, tu joues un peu aussi, du coup, avec ton apparence. C'est comme si on te mettait un peu des contraintes, tu vois.
Ouais.
Tu joues à un jeu, ah ben maintenant, vas-y, tu dois le faire à cloche-pied.
Ouais.
Tu dois le faire comme ça. Et du coup, c'était assez rigolo, quoi. Okay. Puis j'en rigolais beaucoup aussi. Enfin, je suis dans un entourage qui a beaucoup d'humour et du coup, ça n'a jamais été un drame.
Okay.
Ça a toujours été rigolo. Je comprends qu'il y ait des gens qui le vivent mal, mais je pense que quand tu prends du recul, des cheveux, ça repousse. Et puis c'est rigolo d'être chauve. T'es hyper impressionnant. Les enfants, ils te regardent comme ça,
ouais.
Genre, waouh, qu'est-ce que c'est. Et puis en plus, moi, comme je suis un peu jeune et que quand j'ai les sourcils, je les ai perdus un peu tard. Et après, je l'ai redessiné de façon au crayon.
Okay.
Du coup, ça se voyait pas forcément que j'étais malade, en fait. Les gens, ils pensaient que je bossais dans la mode.
Ah oui, d'accord.
Ça te donne un charisme, en fait. J'ai de la chance, moi, ça m'allait bien chauve. J'ai le crâne assez régulier, du coup, c'était assez joli. Mais j'ai plein de potes qui me disaient « Putain, mais j'ai l'impression d'être avec une fashionista de ouf. » Mais t'es impressionnant. Et franchement, ça te donne un côté très autoritaire et très impressionnant. Et
ouais.
Du coup, t'as beaucoup de charisme d'un coup. Et en plus, quand tu parles aux gens et que tu dis que t'as un cancer, alors là, c'est autoroute du charisme. Genre, ah waouh, vas-y, parle-moi et tout, c'est dingue. Mais si, si. Non, j'en rajoute, ils disent pas ça, mais tu sens que t'es intéressant, quoi.
Ah ouais, putain,
genre, waouh, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un cancer, parle-moi et tout,
c'est chelou, du coup, non ?
Ben, c'est un peu chelou, ouais.
Ouais.
C'est un peu chelou. Mais bon, après, moi, j'aime bien, tu sais, ça te fait un peu mousser, t'es là, oui, bon, quitte à ce que ce soit nul, autant que.
Ouais.
Autant pouvoir se la péter un peu, mais bon, c'est bizarre de se la péter pour une maladie, quoi. Tu vois, c'est genre, c'est mieux sans quand même. Hein.
Et puis pour les gens qui te disent, waouh, j'avais jamais rencontré, tu vois, t'as envie de dire, bah tant mieux. En fait, pour ton entourage,
C'est ça. C'est comme là, j'ai vu plein de médecins trop cool, j'ai eu beaucoup de chance.
Ouais.
Et du coup, je commençais à les conseiller aux gens et tout. J'étais là, ben non, mais en fait, non, mais j'espère que vraiment, t'auras jamais à voir cette personne. c'est dommage.
Mais au cas où.
Mais voilà, c'est jamais. Vraiment, je te prie. On ira boire des coups avec lui, au coup, on verra.
Qu'est-ce que tu te souhaites dans l'évolution de ton rapport au corps pour les prochains mois, prochaines années à venir ?
Être plus... Qu'est-ce que je pourrais me souhaiter ? Je me souhaite d'être plus en forme, de récupérer de la fatigue accumulée.
Ouais.
Parce que du coup, tu accumules beaucoup de fatigue. Je galère à dormir un peu parce que j'ai des angoisses, des trucs comme ça. Et du coup, d'arriver à mettre de côté le médical avec mon corps aussi, quand même.
Okay.
Parce que là, je le vois encore comme quelque chose à soigner, à y prendre soin. Et du coup, je suis un peu dissociée de mon esprit, un peu dissociée de mon corps. Mon corps est devenu un peu un outil et quelque chose qui est dans les mains du médical.
Mmh.
Et du coup, j'ai envie de le reprendre un peu pour moi et qu'on arrive à mettre de côté toute la maladie.
D'accord.
Et qu'on puisse continuer à avoir une vie un peu comme avant, qui sera jamais comme avant, parce que je suis plus la même personne du tout. C'est quelque chose qui te change profondément. Mais qu'on arrive à avancer tous les deux bien tranquille. Et avec mes nouveaux seins qui sont trop beaux. Enfin bon, pour l'instant, j'en ai qu'un. Dans un an, j'ai l'égalisation.
Ah,
et ouais, je me fais égaliser. Parce que là, du coup, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre.
Ah oui, c'est pas la même...
Bah, du coup, comme j'avais mon cancer était que dans le sein droit,
Du
coup, ils m'ont opéré du sein droit. Mais le sein gauche, il est comme avant.
Okay.
Du coup, j'ai droit à l'égalisation dans un an,
Okay.
qui est remboursée par la Sécu, bien entendu.
Okay.
Ça, c'est cool. Trop bien d'être en France aussi.
Ouais.
Ah ouais.
Tu réalises ça, tout ce qu'il y a sur cette maladie, tout comme quand
c'est
y a
clair.
La maladie,
franchement,
malheureusement, qui arrive, quoi.
Je me plaignais beaucoup. Je suis là, ouais, bon, c'est... Il faut continuer à se plaindre parce qu'il y a encore des choses à gagner, tu vois. Et il ne faut pas le perdre, ce droit-là.
Surtout, ouais.
Mais c'est trop bien, quoi. Si tu arrives aux États-Unis... T'es dans une merde, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas te soigner, en fait. Mais en tout cas, moi, je suis je suis vraiment contente finalement d'avoir pu avoir ce petit déclic de ok, le corps, il faut y faire attention quand même. Ouais. Au-delà de l'apparence, tu vois, physique, mais au niveau de ta forme, de faire de l'exercice, d'avoir une vie à peu près saine, moi j'en étais à des kilomètres. J'en suis pas encore très proche non plus. Hein. Je suis pas. Je fume encore moins, mais je fume encore un peu. Je fais toujours pas trop de sport encore. Mais je sais que je vais vers là et je vais essayer de le bichonner un peu, mon corps. Ça m'a. J'avais, en fait, mon corps, je le considérais que physiquement, tu vois, sur l'apparence qu'il avait. Ouais, ouais. Et maintenant, je vois en fait aussi que ben, c'est une mécanique, c'est un truc à entretenir et t'en as qu'un. Et voilà, hein, faut qu'il aille bien. De toute façon, s'il va bien, toi, tu vas bien.
Trop bien.
Ouais.
Merci beaucoup, Diane.
Mais avec
c'était
plaisir.
Trop bien. Merci de m'avoir envoyé ce petit mail.
Mais avec plaisir.
Pour participer, vraiment.
J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Et
t'as pas du tout bafouillé,
ouais, c'est ça. T'as l'impression d'avoir bafouillé, non?
Non, je sais pas. Parce que je me perds dans mes pensées des fois, et du coup, je sais pas trop ce que je voulais dire à la base.
C'était très bien, très clair. Puis j'ai appris des choses. Et je pense que je ne serais pas la seule à apprendre des choses.
C'est ça.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com